Bonsoir, c'est Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Et nous avons le grand plaisir de recevoir ce soir Pascal Dietrich. Bonsoir Pascal.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, et vous ?
Ben, merci beaucoup de nous rejoindre pour parler de ce très beau texte paru récemment aux éditions Liana Lévy, un roman qui s'appelle Les Mafieuses. Juste avant, deux petits mots de présentation. Donc, vous êtes chercheur en sociologie.
Oui.
Et aussi, donc, auteur Qu'est-ce que vous préférez, écrivain, écrivaine ou auteur
Plutôt auteureux.
Auteureux. Moi aussi, écrivaine, je trouve que il y a un mot veine qui va pas très bien, mais bon.
Ouais, c'est ça.
On vous avait découvert, grâce à un texte court qui nous avait vraiment beaucoup plu, on vous avait découvert avec Le Homard, c'était le titre d'un novella paru aux éditions Inuit, il y en a un deuxième, et puis un très joli roman, Une île bien tranquille, toujours aux éditions Liana Lévy. Et là, donc, Les Mafieuses. Les Mafieuses, ça se passe à Grenoble. Et ça commence par un vieil homme, un monsieur dans le coma. Ce monsieur, c'est pas n'importe qui, c'était un chef de famille mafieux. Situation assez classique. Mais vous avez le génie pour toujours décaler vos histoires. Donc, expliquez-nous un peu sa dernière volonté à ce mafieux.
Alors, en fait, l'histoire, elle commence quand Léon tombe dans le coma. Donc, il avait Alzheimer, il avait des problèmes de santé. Et avant de tomber dans le coma, il a pris une décision. Il savait, en fait, que sa femme, donc Michelle, l'avait trompé avec son meilleur ami. Et alors, en partie par amour, parce qu'il a envie de partir avec elle, il y a un côté sans doute un peu romantique à ça, et aussi pour se venger, il décide de lui coller un tueur à gage aux fesses, et donc il lui laisse une lettre où il lui annonce ça, sur son lit de mort, en gros, qu'il annonce à sa femme qu'un tueur à gage va bientôt la liquider.
Situation terrible, tragique, mais ô combien comique, parce que on peut pas arrêter le tueur à gages puisque le commanditaire est dans le coma. Donc vous avez déjà une idée de départ absolument superbe. Et donc on va rencontrer le titre, Les Mafieuses. Pas de pin-up ici, pas de femme fatale, mais trois femmes, la maman et puis les deux filles. Et je dirais que c'est trois femmes ordinaires qui ont des petites vies plutôt assez ordinaire. C'était l'une de vos intentions de commencer tonitruante dans la mafia et puis ensuite de retomber dans un quotidien finalement assez tranquille, quoique.
En effet, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de montrer la mafia ordinaire, enfin pas la mafia ordinaire, plutôt la vie de ces femmes, en l'abordant sous un angle ordinaire, en disant ben, finalement, qu'est-ce que c'est que d'être une mère de famille quand on est dans la mafia, qu'est-ce que c'est que d'être la femme d'un mafieux, et après tout, être la femme d'un mafieux, c'est un peu comme être la femme du pharmacien ou être la femme du boucher. Ben voilà, on a des responsabilités, on aide son mari, donc c'est un peu problématique à ces femmes-là, même si, évidemment, il ne s'agit pas de nier tous les enjeux qu'il y a derrière et les exactions qui sont faites. Mais en tout cas, ce qui m'intéressait, c'était aussi de me dire que par la mafia, on pouvait montrer avec une sorte de miroir grossissant des phénomènes de société qui m'intéressaient beaucoup, et notamment, par exemple, les difficultés à faire carrière des femmes. Donc, il y a Alessia, une des filles dont on parlait, qui a fait carrière dans la mafia. Et donc, elle se heurte au plafond de verre, elle a du mal à progresser, parce que les hommes, c'est un milieu assez machiste, donc ils ont du mal à lui laisser sa chance. Et donc au travers de cet exemple de la mafia, je me disais, on peut arriver à dire des choses sur les difficultés ordinaires des femmes sur le marché du travail.
Alors justement, Dina, Alessia, elles ont choisi deux voies de vie fort différentes. Quoique, alors avec votre petite caméra et vos idées, ça donne ça quand même à un moment donné. Je lis un petit extrait. Donc,
d'accord.
Au fond, l'humanitaire et la mafia constituaient deux réponses opposées à un même problème. Ces organisations se développaient quand c'était le chaos, que les gens étaient livrés à eux-mêmes et que l'État ne faisait pas son boulot. La mafia offrait un statut et des ressources à ceux qui ne trouvaient pas de place dans l'économie légale. C'est totalement vrai. C'est Alessia qui travaille dans la mafia et Dina dans l'humanitaire.
Oui, alors ce que je peux peut-être dire sur ce sujet-là, c'est que dans mon autre vie, je suis sociologue et je travaille sur les questions de précarité, logement. Et il y a une chose qui m'est apparue, je me disais, ces associations humanitaires, c'est vrai qu'elles se développent quand l'État ne fait pas son travail, d'une certaine manière. C'est quand l'État ne donne pas de travail aux gens, c'est quand l'État ne régule pas la pauvreté, qui a ces associations, ces organisations qui se développent. Et on peut dire, en faisant mes recherches sur la mafia, je crois qu'on peut dire exactement la même chose. C'est d'une certaine manière, dans les interstices, et sur des terrains finalement très libéraux, où il n'y a pas de régulation sociale, que se développent l'humanitaire et la mafia. Et donc j'ai eu envie de mettre ces deux mondes en parallèle, qui n'ont évidemment rien à voir, mais il me semblait que c'était deux symptômes d'un même problème, en effet.
Ouais, mais
et effectivement, d'ailleurs, pour compléter, la mafia joue parfois presque un rôle social. J'ai fait des recherches sur ce milieu-là, et c'est vrai que parfois, c'est eux qui vont donner un boulot aux jeunes qui n'ont pas de boulot dans les quartiers. Donc il y a aussi cet aspect-là qui permet à la mafia de tenir, d'ailleurs, sur le long terme.
Oui, en Sicile, c'est comme ça que la mafia a commencé, en étant tout simplement une association d'entraide dans les villages, hein, de toute façon.
Oui.
Donc, oui, bah, oui. À Grenoble, l'entraide, c'est beaucoup moins... C'est pas vu de la même façon, on va dire, hein.
C'est sûr. Mais c'est vrai, en tout cas, qu'à Grenoble, la mafia est quand même très présente. Et j'ai découvert qu'on appelait même cette ville la porte de l'argent. Parce que, voilà, c'est par là qu'est arrivée la mafia et qu'arrive la drogue en France. C'est une des grandes portes d'entrée de la drogue.
En dehors de tout le plaisir de la lecture, c'est ce que j'ai découvert d'ailleurs dans ce livre. Parce que j'avoue que je pensais que ce serait plus près du sud-est de la France, entre Marseille et Nice. Mais non, c'est apparemment Grenoble. Alors, on va revenir au personnage, Alessia. Alessia, c'est donc une femme. Une femme qui vit, qui a un boulot, qui est pharmacienne. Et puis elle a décidé de reprendre un petit peu le boulot de son père. Et là, aux surprises quand même, même si on a quand même lu d'autres choses et vu quelques films, on a l'impression de pénétrer dans juste les arcanes d'une entreprise multinationale. Parce que ce qu'elle gère, c'est une pharmacie. Elle a trouvé un truc superbe pour écouler de la drogue. L'homéopathie, c'est-il pas génial ça?
Donc en fait, Alessia, en effet, elle a commencé des études, d'abord de médecine, et puis finalement, elle s'est dit, oh, tiens, je vais me réorienter vers la pharmacie. Et c'est là qu'elle a une idée excellente. En fait, à Grenoble, je pense que tout grenoblois sait ça, il y a le long des quais une enfilade de, disons, 15 pizzerias qui servent au blanchiment d'argent. Donc tout le monde est au courant, tout le monde sait de quoi il s'agit. Et elle se dit, bon, bah c'est pas possible, c'est trop visible. Et elle a l'idée d'utiliser plutôt des pharmacies, et donc de dissimuler la drogue dans des tubes d'homéopathie, puisque bah voilà, le contenant est exactement à la bonne taille. En plus, il y a des dilutions indiquées en métadonate 9CH, 5CH, etc. Il y a différentes couleurs. Donc les clients viennent dans les pharmacies et repartent avec un petit sachet en papier et leur dose d'homéopathie dedans de manière tout à fait discrète. Et donc voilà, c'est le renouveau qu'apporte Alessia par rapport au business paternel, en rendant le business voilà, plus discret et plus sûr du coup.
Et puis après, on va aller à faire dans le média, dans le spectacle. On va s'occuper d'un club de foot parce qu'il faut bien blanchir encore plus d'argent. Donc c'est pratique, les clubs de foot. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a, en contrepartie, il y a quand même les bonnes vieilles méthodes. Les intimidations musclées, les éliminations, guerre de territoire. Je parlais de ce décalage constant. Et ce qui est savoureux dans ce livre, dans Les Mafieuses, c'est quand, par exemple, l'une des filles raconte, alors l'ancienne méthode, c'est comment les femmes tiraient aussi les ficelles. Alors les hommes étaient dans le jardin autour du barbecue, ça on a des scènes célèbres de films américains, mais dans les cuisines, c'est les femmes qui tirent les ficelles finalement.
Tout à fait. Alors ça, c'est un des points qui m'a beaucoup intéressée. Je crois qu'il y a une vraie distinction entre deux générations chez les femmes de mafieux. Il y a les femmes de la génération de Michel, qui est donc la femme du mafieux qui est dans le coma, où là, les femmes n'avaient pas de statut. C'est-à-dire que c'est exactement ce que vous disiez. Elles étaient dans la cuisine, elles conseillaient les maris, elles les remplaçaient quand même quand ils étaient en prison. C'est aussi elles qui géraient l'argent, qui géraient les conflits et qui géraient les relations au sein de la mafia, mais sans statut. Donc là, elles ont un pouvoir énorme, mais invisible. Et le renouveau qu'on observe aujourd'hui, et je pense que Alessia est vraiment représentative de ça, c'est que là, pour le coup, les femmes, aujourd'hui, ont des vrais rôles dans la mafia, avec une réelle fonction affichée et visible.
Et des hommes qui l'écoutent et qui suivent leurs ordres. Donc là, on a vraiment... voilà, elles n'ont plus besoin de se dissimuler.
La chef mafieuse, en effet.
Voilà. Donc on a donc ces scènes, et il y a vraiment des moments où moi, j'ai éclaté de rire, des scènes drôles, décalées. La rencontre de Dina avec son futur amant au supermarché, on va pas en parler. On ne va pas non plus parler de comment Alessia essaye de réveiller son père pour trouver le tueur à gages qui est dans le coma, bien surveillé dans un hôpital moderne. On va pas expliquer la scène. Mais moi, ce que je me demande, c'est Où vous allez chercher tout ça? Est-ce que vous avez les idées en avance que vous notez dans un petit carnet? Ou bien est-ce que vous voyez la scène et puis tout d'un coup, il y a une idée qui arrive comme ça?
Alors, c'est variable. Déjà, effectivement, je suis très attentive à ce qui se passe autour de moi. Et dès qu'il y a un truc qui m'interpelle, je vais le noter dans un carnet. En effet, donc de temps en temps, je me dis, ah tiens, je pourrais reprendre cette chose qui m'avait interpellée. Et donc, j'ai ça qui joue. Et en même temps, j'essaie d'avancer dans ma scène. Et puis, petit à petit, je cherche ce qui va pouvoir la rendre, on va dire, plus dynamique, plus drôle, etc. Et là, ça demande beaucoup de travail, une grande maturation, et au bout d'un moment, je me dis, ah bah si, c'est ça, c'est le petit détail ou l'élément qui va rendre la scène drôle, ou en tout cas, qui va permettre d'aborder les choses sous un angle inattendu. Alors, je crois que c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est que tout d'un coup, on pense que la scène va partir dans tel sens, et ça paraît être le cours ordinaire de l'histoire, mais en fait, non. Et là, le lecteur est surpris, enfin, c'est ce que j'essaye de faire, et on part sur un truc complètement décalé et inattendu.
Oui, alors, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que vous n'en abusez pas. C'est vraiment quelques scènes qui, tout d'un coup, sont complètement, ça dérape complètement, et on sent que vous maîtrisez complètement la narration et que c'est pas non plus quelque chose où on se tape, voilà, sur le ventre à longueur de page. Il y a des morceaux, des scènes savoureuses, mais il y a aussi toute une narration très très tenue.
Allô ?
Il y a un rythme. Le rythme, ça s'arrête pas. Le fait que Michel, la mère, va chercher donc à fuir le tueur à gages, que l'une de ses filles va essayer de la sauver, l'autre aussi un petit peu, toutes ces imbroglios d'histoire, et il y a aussi quelque chose où vous excellez, je trouve, c'est les dialogues. On a des dialogues haut en couleur, des dialogues intimes, et le rythme du roman, il passe souvent par quelques phrases échangées. Et on sent aussi que vous peaufinez énormément ces dialogues. Est-ce que vous relisez les dialogues à haute voix ?
Alors non, c'est vrai, je les relis pas à haute voix. Et d'ailleurs, c'est marrant, j'ai un peu de mal à lire les textes à haute voix. Je trouve qu'on sort de la bulle dans laquelle nous plonge le roman. Mais c'est vrai que je pourrais peut-être le faire. En tout cas, effectivement, j'attache beaucoup d'importance au dialogue. Je trouve que c'est ça qui dynamise un texte, qui permet de rythmer le texte. Et puis qui tout d'un coup fait que, bon, déjà, avant, j'essaie de faire rentrer vraiment le lecteur dans la tête du personnage. Mais avec le dialogue, on est au plus proche, il me semble, des personnages. Donc c'est vrai que j'y attache beaucoup d'importance. Et que, effectivement, là, ça se joue en une ou deux réparties, et souvent, mes personnages sont quand même des personnages avec du caractère, donc, effectivement, les dialogues ont une importance cruciale, du coup.
Importance cruciale, et vous vous attelez vraiment aussi à les rendre réalistes, c'est-à-dire qu'ils correspondent vraiment à chaque personnage, et ils correspondent aux situations. Il n'y a pas de... Enfin, on est évidemment dans une fiction, mais tout paraît très réaliste, tout ça, finalement.
Alors c'est vrai que quand je regarde le processus d'écriture d'un roman, quand je commence, j'ai l'impression de pas bien connaître mes personnages. Et petit à petit, plus j'écris, plus je reprends, je relis encore et je recorrige, petit à petit, ce qui se joue, c'est que je commence à bien connaître mes personnages et à me dire, mais c'est forcément ça qu'ils vont dire, on va dire. Et du coup, c'est je ne sais pas, mais ce réalisme, il me semble, vient de ce sentiment de vraiment connaître la psychologie du personnage et du coup de savoir la réaction logique et le dialogue logique qu'il va avoir dans telle ou telle situation. Donc c'est vraiment ça, je sais que j'ai réussi à bien, je ne sais pas, à arriver au bout de l'histoire quand j'ai vraiment un sentiment de connivence avec mes personnages et de les connaître jusqu'au bout des ongles et de pouvoir prédire presque toutes les réactions tout à fait logiques de leur caractère, leur situation sociale, etc. Voilà, donc je travaille beaucoup sur ça et sur la cohérence, on va dire, de la psychologie de mes personnages.
Et est-ce qu'il arrive malgré tout que vos personnages vous surprennent ?
J'hésite sur cette question. En tout cas, parfois, je vais me dire, non, là, c'était trop attendu et je vais prendre un tournant. Ça peut arriver, en effet.
Alors, on va revenir un petit peu, on a parlé un peu des personnages, on va pas raconter l'histoire, mais on l'a compris, on parle de mafia, on parle de la pieuvre de Grenoble, la redoutable Cosa Nostra. On se demande comment une sociologue voit... toute cette histoire et peut connaître ainsi leurs us et coutumes. Comment vous abordez ce problème de la mafia en tant que sociologue, je dirais ?
Alors, ce qui est amusant, c'est que donc pour mon travail de sociologue, je vais sur le terrain, je rencontre les gens et j'ai vraiment une connaissance intime du terrain et des gens dont je parle. Quand je suis dans un roman, j'ai besoin vraiment d'être dans l'imaginaire. Vraiment, la logique est complètement différente. Et quand j'ai commencé mon histoire de mafieuse, je suis d'abord partie sur un texte où j'étais complètement dans l'imaginaire, sans chercher à aller vérifier que c'était plausible ou pas. Et c'est que dans un deuxième temps que j'ai été faire des recherches et que j'ai ajusté les choses en connaissant le milieu de la mafia. Alors du coup, j'ai regardé beaucoup de reportages, j'ai lu des choses. Et pas mal de romans et de bouquins, voilà, de reportages sur ce thème-là. Et c'est donc dans un deuxième temps où là, je me suis dit, bon, bah, il faut évidemment connaître quand même un peu la situation. Mais c'est vrai que je fais des recherches, je dirais, un peu poussées, mais pas trop non plus, parce que pour moi, c'est vraiment l'imaginaire qui prime sur l'ensemble. Enfin, voilà, c'est ça qui fait tenir l'histoire, je dirais.
Mais c'est important, ce que vous venez de dire me semble très important, parce que c'est une démarche, il y a d'autres démarches, il y a des auteurs, des écrivains qui commencent par faire tout un travail de documentation, et il faut vraiment qu'ils aient toute la documentation avant de commencer l'histoire, et en fait vous, c'est vraiment une situation de départ, un imaginaire qui lance un récit.
Complètement, et souvent je pars d'une petite idée, d'une toute petite scène. En fait, je pars de rien, j'ai jamais de plan. Je fais partie de ces auteurs qui ont juste un début d'idée et je me lance ensuite, et ensuite je tâtonne. Au fil des pages, je réajuste, je reprends, mais je ne sais pas encore dans quel milieu ça va me conduire. Par exemple, les mafieuses, quand j'ai commencé, j'avais juste l'idée donc de ce personnage qui est dans le coma et qui va qui va se dire je vais tuer ma femme, mais je ne savais pas encore que ce serait des mafieux. Et petit à petit, je me suis dit, bon ben. Si ça se passe comme ça, si c'est une personne qui ose faire ça, on va sans doute être dans le milieu.
Voilà, il faut connaître les tueurs à gages quand même.
Voilà, il faut quand même avoir un minimum de ficelle pour engager un tueur à gages. Et donc ça s'est petit à petit imposé, mais ce n'était pas l'idée de départ de décrire le milieu de la mafia.
Bah écoutez, en tout cas, cette idée-là et cette façon de procéder, moi je vous conseille vraiment de continuer, parce que ça donne vraiment des petits bijoux et de très belles réussites de narration. Le temps passe, on va terminer. Donc je vais terminer par un petit extrait et après on se dira au revoir. C'est un petit extrait qui montre Michel. Donc elle est obligée de fuir. Michel, la femme de la femme du chef, parce que donc elle a un tueur à gages à ses trousses. Et à un moment donné du roman, elle va fermer sa maison. Et je trouve très intéressant quelques lignes où vous décrivez l'atmosphère de cette maison. Elle jeta un regard autour d'elle. C'était peut-être la dernière fois qu'elle voyait sa maison. C'est ici qu'elle avait élevé ses filles, organisé des dîners avec des personnalités politiques, des hommes d'affaires, des sportifs et même des stars du showbiz. Jean-Luc Delarue avait mangé là. Tant de choses avaient transité par ce salon. Des armes, de la drogue, des chaînes IFI, des smartphones, du caviar, des valises de billets, des animaux exotiques, des diamants, des cadavres. Ce pavillon luxueux, avec ses dalles de marbre et son escalier en hélice, était une sorte de prolongement des docks des ports de Naples et de Marseille. À la fois, le signe de la réussite et la source de tous les emmerdements. Je voulais lire cet extrait parce que je trouve que ça montre bien l'ambivalence constante qu'il y a entre, voilà, la vie de la mafia et une vie totalement ordinaire de citoyenne dans une ville, quoi.
Tout à fait, et c'est vrai que d'une manière générale, c'est toujours l'ambiguïté qui m'intéresse dans mes personnages et mes situations. J'essaye de jamais être dans le manichéisme, et on est toujours dans des situations, des personnages mi-figue, mi-raisin, avec une ambiguïté entre le bien et le mal, et les frontières sont toujours poreuses dans mes histoires.
Tout à fait. Pascal, merci beaucoup. On souhaite beaucoup de succès aux mafieuses, qui donc très belle couverture jaune et noire aux éditions Liana Lévy. Et puis à bientôt, un jour ou l'autre. Au revoir.
À bientôt, merci beaucoup, au revoir.
Chers auditeurs, on vous laisse pour se retrouver dans la prochaine partie d'émission.
Après les infos.